Bonjour, rebonjour à toutes. Donc voilà, aujourd'hui c'est moi qui vais partager une petite pensée avec vous. Et en fait, ça m'est venu parce que dernièrement j'ai eu l'occasion de relire des livres dans le cadre d'ITS Éditions, des livres qui sont sortis ou qui vont prochainement sortir. Et en fait, j'ai été interpellée par deux passages qui sont dans deux livres différents, dans deux contextes différents. C'est vraiment un passage dans un livre et un autre passage dans un autre livre. Mais ça m'a interpellée, puis ça m'a amené une réflexion que j'aimerais partager avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on lise ces deux passages et puis après je vous explique un peu où je veux en venir. Alors du coup, je vous propose de commencer le premier passage dans 2 Samuel 6, versets 12 à 23. Donc 2 Samuel 6, versets 12 à 23. Donc, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple repartit, chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël !» Il s'est dénudé aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme le ferait un homme sans valeur. David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël, et c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ça, c'est le premier passage. Et le deuxième que je vous propose de regarder, c'est en Jean 4, à partir du verset 4. Comme Jésus devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritaines. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de tout ce qu'il parlait avec une femme, Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Si on va un tout petit peu plus loin, verset 39, « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alors j'ai lu beaucoup, j'ai lu assez largement dans les deux textes. Il y a ces deux petites parties qui m'intéressent et c'est surtout qu'il y a souvent beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de ces passages. Mais moi c'est un point un peu en particulier que j'aimerais tirer dans ces deux passages, c'est de se poser la question du regard qui compte sur notre vie. Parce que, en fait, dans ces passages, on voit deux femmes avec des situations très différentes et qui se placent soit sous le regard des hommes, et pourtant, alors qu'elle est en position d'autorité, on voit que Michal, elle se place sous le regard des hommes. Et l'autre, on voit une autre femme, la femme samaritaine, qui se place sous le regard de Dieu, malgré son statut et son, voilà, sa position dans la société qui, pour le coup, était pas du tout celle de Michal. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va un peu regarder ces passages et puis après on entrera dans le détail. Alors si on reprend dans le premier passage donc de 2 Samuel, on est dans un contexte où en fait David donc est roi et il veut placer Dieu au cœur du royaume. Donc il fait revenir l'arche qui avait été oubliée depuis des années et qui était resté, ils avaient fait une première tentative pour le transporter, là ça s'était mal passé, il y avait un serviteur qui l'avait touché, et puis donc elle était restée 3 mois dans la maison d'Obed, et là donc David entreprend une nouvelle fois de faire venir l'arche à Jérusalem, il le fait dans des bonnes conditions. Et l'arche arrive enfin à Jérusalem, c'est vraiment un sujet de joie pour tout le peuple, pour tout le monde. Et là Michal voit le roi danser, de joie devant l'Éternel, et à la fois elle est dépitée et très gênée de sa performance, et elle lui fait le reproche, quoi. Elle est hyper embarrassée. Alors Michal, c'est qui? C'est la première femme de David, c'est la fille de Saül, ça on le voit deux fois dans le passage. Donc voilà, imaginez la position qu'elle avait, c'est la femme du roi, la fille d'un roi, et là elle se met elle se sent hyper mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'est en train de faire David. Alors, Michal, ce qu'on sait, c'est qu'elle aimait vraiment David, un peu plus tôt dans des passages que j'ai pas lus, mais il est dit vraiment qu'elle aimait David. Et à l'époque, donc David n'était pas roi. Saül a accepté de donner sa fille à David. Alors, lui, c'était plutôt un peu par magouille. En gros, il fallait échanger Michal contre des Philistins. Donc ce qu'avait fait David, il a tué tout ce petit monde et il a pu épouser Michal. Et puis après David a dû partir, fuir Saül, vivre caché. Et là donc Michal, elle a été donnée en mariage à quelqu'un d'autre. Et puis, quand David est revenu sur le trône, il a redemandé à ce que Michal revienne. Donc bon, elle a quand même pas eu une vie super facile. Mais en revanche, c'est que là, on voit vraiment que c'était un sujet de joie, une situation de joie. Et Michal, alors qu'elle était vraiment dans une position reconnue, enfin imaginez, c'est un contexte un peu différent, mais Brigitte Macron, quoi. Hein, elle était connue dans tout le pays. Et elle avait une position qui était peut-être sans doute même enviée par d'autres femmes. Et là, en même temps, elle a eu la honte, comme on dit ou comme disent les jeunes. Elle a eu honte de ce qu'a fait son mari, et parce qu'elle s'est dit que c'était pas digne de sa position, pas digne vis-à-vis des servants et des servantes et du reste du peuple. Dans la deuxième histoire, celle de la femme samaritaine, donc là. On a Jésus qui a séjourné en Judée, il doit retourner en Galilée, il passe par la Samarie. Donc ça, c'est un peu déjà très surprenant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les relations entre les deux peuples étaient pas entre les Juifs, hein, au temps de Jésus, et les Samaritains. Les Juifs haïssaient vraiment les Samaritains. Et globalement, ils faisaient tout pour éviter de passer par la Samarie quand ils pouvaient. Donc il est fatigué, il a chaud, il s'installe au bord du puits. Et là, la femme arrive à midi, donc midi, en gros, les gens sortaient pas trop, hein. Il faut se dire qu'il fait vraiment super chaud. Et elle sort à midi, sans doute parce qu'elle veut pas se montrer devant tout le monde, parce que sa situation de vie était pas forcément digne. Et donc, du coup, elle sort à midi, et là, donc, elle rencontre Jésus, la conversation s'engage. Donc là aussi, c'est exceptionnel, hein, parce que dans les conventions de l'époque, qu'une conversation publique entre un homme et une femme, c'était pas trop bien vu, entre juifs et samaritains non plus, et globalement entre les étrangers. Alors, on voit que la femme, elle comprend pas tout, exactement tout, et pas forcément au même niveau que ce que Jésus lui dit, mais en revanche, il lui pose une question très personnelle sur son mari. Et là, elle est amenée du coup à voir la vérité en face. Et donc, elle a 5 maris. Ce qui est déjà un peu costaud, hein, à l'époque, deux, trois mariages c'était toléré, mais au-delà c'était vraiment plus bon signe. Et puis là, en plus, ce qui plus est, elle est même plus avec un mari, mais avec un homme avec qui elle vit, comme on dit aujourd'hui, probablement en concubinage, ou en tout cas, voilà, on n'en sait pas plus. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que la position de cette femme dans la société, elle était pas du tout, certainement pas enviée et même plutôt déshonorante et rejetée. Et donc Jésus lui parle, il la connaît, et là, quand elle réalise ce qui se passe dans sa vie, là, elle se soucie plus du tout du regard des autres. Elle retourne dans la ville, elle n'hésite pas à le dire à tout le monde, alors qu'elle était quand même sortie à midi, une heure où il n'y a pas grand monde justement caché, et là on voit qu'elle sort un moment où elle a plus peur de rencontrer les autres et de dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, voilà, qui a transformé ma vie. Et moi, quand je lis ces histoires, et surtout celle de Michal, je me dis que c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver. Alors, pas d'être l'épouse d'un roi, hein, mais plutôt d'avoir honte de quelqu'un ou de moi-même ou de ce que fait quelqu'un devant les autres. Et c'est vrai que en tout cas, moi, je me pose souvent des questions. Je me dis, voilà, est-ce que je suis assez bien habillée? Est-ce que je présente bien? J'en sais rien. Est-ce que je suis aussi drôle ou assez drôle? Ou est-ce que ce que je dis, c'est intéressant? Enfin, voilà, on va tous se poser des questions. Ça nous arrive, sans doute plus à d'autres qu'à certaines qu'à d'autres. Mais on va beaucoup accorder d'importance au regard des autres. Généralement, il y a 3 domaines, hein, sur lesquels on accorde beaucoup d'importance au regard des autres. C'est l'apparence, le poids, je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop foncé, je suis trop clair. Donc les cheveux, les habits, voilà. Il y a la performance. Est-ce que mes capacités, mes dons, mon intelligence, est-ce que je suis, j'en sais rien, moi, j'étais pas très bonne en maths à l'école, est-ce que ça veut dire que je suis nulle dans toute ma vie, que j'arriverai jamais à rien? J'en sais rien, peu importe, j'ai raté mon permis de conduire, ça veut dire que je suis une incapable. Je parle pas aussi bien anglais que ma coloc, ça veut dire que je suis nulle. Voilà, on a plein de sujets de comparaison en termes de performance. Et puis, il y a le troisième, c'est souvent le statut. C'est la reconnaissance sociale. Je suis bien positionnée dans la société, je suis, j'en sais rien, moi, chef d'entreprise, je suis issue d'une famille riche ou au contraire d'une famille pauvre. Hein. C'est assez valable dans un sens comme dans l'autre. C'est d'ailleurs plutôt dans ce domaine-là hein, que les deux femmes qu'on a vues, Mical et la femme samaritaine, on est plutôt dans ce sujet-là de la position dans le statut. Et en fait, c'est vrai que parfois dans notre vie, il n'y a rien qui est plus important que le regard des autres. Voire on n'existe même plus qu'au travers du regard des autres. Et en fait, il y a tellement de manières d'être regardé que voilà, c'est presque un peu logique ou normal qu'on se pose ce type de questions. Mais du coup, on en vient à passer beaucoup de temps avec un espèce de confident personnel qui peut être très physique, c'est le miroir. On va se regarder en permanence dans un miroir, une vitre, un truc qui passe, ou soi-même en tout cas, et on va chercher à voir quelle est notre image et même à imaginer ce que les autres vont penser de nous et se mettre à leur place. Et du coup, ça va occuper nos pensées. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on est souvent confronté au regard des autres. On doit apprendre à trouver notre place, à nous positionner. Et c'est pas toujours facile. On parle des diktats de la mode, mais voilà, on va parler des femmes. Alors là, on est entre femmes, mais voilà, des physiques de femmes, de la réussite aussi. Maintenant, on est vraiment dans la tendance de la réussite professionnelle, de la carrière pour les femmes. Comment?
Le girl power.
Le girl power. Et exactement. Et du coup, ça fait que on en vient à agir parfois à l'encontre de certaines de nos valeurs, parce que dans la société. C'est pas forcément comme ça que ça se fait parce qu'on serait pas forcément bien vu. On parle beaucoup d'estime de soi aussi. Et alors Wikipédia, le grand dictionnaire de la langue française, définit l'estime de soi comme une expression qui désigne le jugement ou l'évaluation que l'on fait de soi-même en rapport avec nos propres valeurs. Et les psychologues modernes disent que l'estime de soi, c'est le résultat d'une auto-évaluation. Il s'agit en quelque sorte d'un baromètre révélant dans quelle mesure nous vivons en concordance avec nos valeurs. L'estime de soi se manifeste par la fierté que nous avons d'être nous-mêmes et repose sur l'évaluation continue de nos actions. Cette appréciation s'inscrit immédiatement en mémoire et s'attache au concept du soi. Bon, c'est un terme psychologique, voilà. Et du coup, ben en fait, on en vient à jauger notre valeur profonde, avec notre propre baromètre, avec nos propres paramètres. Et souvent, ce baromètre, ces paramètres, ils sont construits sur l'environnement, sur la société, sur ce qu'on nous a dicté, ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous diffuse à droite à gauche. Et en fait, bah, à l'origine du problème, je pense que vous l'avez tous en tête, hein, mais ça fait vraiment partie des tactiques du diable. De nous influencer et de continuellement nous entraîner dans cette chute pour avoir un baromètre qui soit faussé, des normes, des repères qui soient déséquilibrés. Et vous savez, la toute première pensée du diable, et on le voit en Ésaïe 14, c'était de dire, il dit, « Je monterai au sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. » Et en fait, c'est comme ça que ça a déclenché voilà toute la... le péché pour l'humanité, en fait. Et le diable, il est très persévérant. Et il a commencé déjà à l'époque d'Adam et Ève, à commencer à mettre le doute dans leur cœur en déclenchant une vraie crise d'identité. En Genèse 3, il leur dit « Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Et du coup, la promesse, là, ce qu'il essaye de dire, c'est dit, voilà, si vous faites ça, vous serez comme Dieu, si vous mangez du fruit défendu. Et pourtant, en Genèse 1, 27, on nous dit bien, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Et en fait, Adam, il était déjà comme Dieu. Il était déjà créé à l'image de Dieu. Et en fait, il a douté de son identité en Dieu. Et il a commencé à ouvrir dans son cœur la porte du péché, en fait. Et en fait, si Adam avait répondu, et même pour nous aujourd'hui, avec l'assurance qu'on n'a pas besoin d'essayer d'être comme Dieu, parce que Adam lui-même était tiré de Dieu, avec le souffle de Dieu en lui, eh bien, il aurait pu... voilà, on aurait tous une vision différente de ce qu'on est aujourd'hui. On a été créés, et Adam lui-même, mais nous aussi, à l'image de Dieu. Et on existe parce qu'on est, on est en Dieu. Et c'est vrai que la chute, ça a vraiment engendré une conscience de soi qui est très exacerbée. Et quand on a vraiment une conscience de soi, quand on est concentré sur soi, focusé sur soi, il y a toujours un manque. Mais si on est dans la conscience de Dieu, et ben ça suffit parce que Dieu, il est tout en tout. C'est la plénitude. Et voilà, c'est vrai que parfois notre foi dans la beauté de ce que Dieu a créé à travers nous vacille un peu, parce qu'on se retrouve emprisonné dans le regard des autres, dans l'influence que ça peut avoir sur nous, plutôt que de dépendre de la vision excellente de Dieu sur nous. Et du coup, on est accaparé par des regards qui sont pesants et qui sont influents. Et du coup, on se retrouve plus à vivre notre vie, mais à vivre pour la vie, la vie à l'apostrophe, la vie des autres, le regard de l'autre. Et on peut pas changer les autres, mais nous, on peut changer notre perception de nous-mêmes. On peut essayer de pas se retrouver esclave ou dépendant du regard des autres. Et voilà, le diable, lui, il se réjouit de ça à chaque fois qu'on doute. Chaque fois qu'on se pose des questions, alors que Dieu vraiment, il nous a donné une bonne nouvelle et une nouvelle identité. Vous savez, c'est un verset que j'aime beaucoup, hein, dans 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est en 1 Jean 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et ça, c'est ça notre identité. C'est ce qu'on est. C'est Dieu qui nous a voulu, qui nous a construit ainsi. Et il y avait quand j'étais ado, j'étais très complexée. Et j'avais une de mes monos qui m'avait lu un verset qui me plaît toujours autant. Et c'est important de se le rappeler, hein, mais... En psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » C'est vraiment un passage qui explique comment Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère et à quel point l'identité qu'il nous donne, c'est ça, c'est à l'image, c'est à son image. Et Dieu, il nous a fait à son image. Et voilà, et c'est vrai que... Ben voilà, parfois on va vraiment vivre par rapport au regard des autres, par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on est, par rapport aux cartes qu'on a dans les mains. Corinne en avait parlé à la dernière étude biblique, c'est que voilà, on a des choses qui nous sont données, et parfois on vit dans ce regard. Et pourtant vraiment on a une nouvelle identité. Et puis parfois on vit aussi dans le regard des autres par rapport à ce qu'on fait, aux choix, aux actes qu'on va faire, aux décisions qu'on va prendre. Et voilà. Et les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je m'inquiète plus du regard de Dieu sur ma vie ou du regard des hommes, des gens sur moi? Est-ce que j'ai honte de ce que je fais pour Dieu? Au bureau, parfois, on me dit « Alors, t'as fait quoi ce week-end ?» Alors, ce week-end, ben, le samedi, je suis allée chez des gens qui habitent loin pour parler de Dieu. Et bah le dimanche, je suis allée à l'église pour parler de Dieu. Bon, ok. Est-ce que j'assume de dire ça? Est-ce que je suis fière d'avoir fait ça ce week-end? Tu viens boire un verre ce soir où il y a le Beaujolais là bientôt. Donc c'est bientôt le Beaujolais. Voilà, bon le Beaujolais, un grand truc des collègues. Tu viens? Tu viens mercredi? Bah non, mercredi j'ai église. Oui, mais samedi t'y étais, dimanche aussi. Bah oui. Ouais. Est-ce que ce que je fais, je le fais pour Dieu. Est-ce que ce qui m'inquiète, c'est de me dire qu'est-ce que vont penser mes collègues, mes voisins, hein, tout mon environnement, ma famille. Alors, bon, pour ceux qui ont des familles qui peut-être sont pas croyantes, qu'est-ce qui est plus important pour moi ? Ce que Dieu pense de moi ou ce que les autres vont penser de moi ? Vous savez, au bureau, j'ai un agenda en ligne, quoi. Et donc dedans, j'ai les réunions, les gens qui m'envoient des invitations pour des réunions. Et puis, du coup, il est partagé avec certains de mes collègues, notamment mon chef, qui ça permet de voir qui est pris, à quel moment, etc. Et du coup, le lundi soir, moi, je me suis bloquée à partir de 18h30. J'ai marqué ITS pour espérer qu'on me mette pas de réunion à partir de 18h30. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein, mais en tout cas, c'est écrit ITS. Puis l'autre jour, mon chef me dit « Ah, j'ai vu ITS dans ton agenda, du coup, je suis allée voir sur Internet. » Alors, il sait que je vais dans un institut biblique, mais du coup, il me dit « Je suis allée voir sur Internet ce que c'était. » Et voilà, puis il me dit « Ah, j'ai vu, il y avait ton petit témoignage sur le site Internet et tout. » Et là, pendant une demi-seconde, je me suis dit « Ah, la honte, je me souviens plus ce que j'avais écrit. » Parce qu'en fait, Pasteur Michel avait demandé à certains étudiants d'écrire un petit témoignage de ce que faisait l'ITS dans leur vie. Et voilà, donc ça, il y a quelques années. Je me suis dit, voilà, une demi-seconde, je me suis dit « Ah, qu'est-ce que j'ai dit déjà ?» Et puis, qu'est-ce qu'il a pu voir sur le site et tout. Et après, je me suis dit « Non, mais en fait, pourquoi je me prends la tête ?» Imagine juste avec un truc, trois lettres que j'écris dans mon agenda. En fait, lui, il a peut-être vu quelque chose que... Il a peut-être vu des témoignages d'autres personnes. Il a peut-être vu ce que c'était les cours bibliques, l'investissement que c'était et tout. Et là, je me suis dit, en fait, voilà, il suffit de pas grand-chose pour que soit on se sente mal, soit au contraire, on puisse voir que Dieu, il peut aussi agir avec pas grand-chose et que c'est pour sa gloire. Et voilà, je voulais juste aussi nous rappeler quelques exemples de personnes qui ont fait des choix pour Dieu. Et je pensais à Noé, par exemple. À Noé, on lit souvent cette histoire parce qu'elle a quelque chose d'assez incroyable. Il a bâti cette arche, les animaux qui rentrent et tout. Mais il faut se dire qu'à l'époque, Noé, il était tout seul devant tout le monde à construire sa petite arche, alors que tout le monde lui disait « Non, mais t'as craqué, quoi. » Aujourd'hui, on dirait ça. Hein. À l'époque, on le disait pas de cette façon, mais... Et Noé, il a persévéré là-dedans et il est resté là-dedans parce qu'il savait que c'était pour Dieu. Et il y a un verset qui dit « Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. » Et voilà. Est-ce que c'est ça qui compte? Est-ce que c'est de se dire « Je marche avec Dieu » ou « Je marche avec mes collègues, avec les gens, mes voisins, etc. » On a Abraham aussi qui a quand même dû quitter toute sa famille, ses parents, etc. Pour aller dans le pays que Dieu lui montre. Là aussi, faut assumer de faire un tel choix, de prendre une telle décision. On a aussi Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. En fait, il y a même deux personnes. Il y a la petite servante. Vous savez, dans cette histoire, hein, donc Naaman, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie et il a la lèpre. Et il avait dans son personnel hein, une petite captive juive qui était au service de son épouse. Et déjà, la petite servante, elle a quand même assumé de dire à sa servante « Ah bah si Naaman pouvait aller voir le prophète, je suis sûre qu'il pourrait l'aider, le guérir. » Donc, elle déjà, elle était quand même captive, elle devait pas avoir une reconnaissance super, et elle a assumé de dire ça. Et on a quand même Naaman qui, lui, dans un deuxième temps, a aussi assumé de se dire « Ok, je pense qu'il y a peut-être quelque chose pour moi. » Quand il est allé voir le roi de Syrie en disant « Bon, donne-moi une petite lettre pour passer et aller là. » Donc, voilà, là, c'est des exemples qui peuvent nous aider. On a aussi, alors, bon, l'exemple un peu suprême, parfait, de Jésus. Hein. Mais Jésus, il est devenu homme, il a traversé le même chemin que nous et il a été soumis aux mêmes tentations. Mais il a aussi, et sans doute plus que nous, été très regardé, très critiqué, très moqué, même isolé. Et lui, bah, comment il a géré son estime de soi? Bah, je trouve qu'il y a un passage qui est assez chouette, c'est quand au moment de son baptême, c'est en Matthieu 3, versets 16 et 17. C'est dit, donc, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Bah, voilà, c'est comme ça qu'il a géré Jésus. Il a assumé son identité, et c'est comme ça qu'il a appris à faire face aux tactiques du diable. Et voilà, il s'est vraiment positionné dans cette affection du Fils bien-aimé. Et nous, bah, comment est-ce qu'on se voit aujourd'hui? Est-ce que je crois que ce que je fais, c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis fière de ce que je suis en Dieu? Alors là, peut-être on fait des erreurs, on commet tous des péchés, évidemment, et malheureusement. Mais voilà, est-ce que j'accepte la condition dans laquelle je suis, les choix que je peux faire? Est-ce que j'assume? Et ouais, vraiment, j'ai repensé en travaillant cette étude, je pensais vraiment à ce que tu avais partagé la dernière fois, hein, Corinne, sur les cartes qu'on a en main. Et voilà, on peut être fier de notre vie parce que ce qu'on a, c'est de pouvoir être utilisé par Dieu avec ce que nous avons et là où nous sommes. Et voilà, on n'a pas à rendre compte de notre vie devant les autres. C'est devant Dieu qu'on rendra des comptes. Et notre espérance, c'est pas de réussir notre vie ici, aujourd'hui, devant les hommes, de faire des choses sympas, d'avoir un gros poste, mais c'est de trouver notre espérance en Christ. Et en tant qu'Église, on n'a pas à chercher à imiter le monde, mais à porter, juste à vivre pour Dieu, à porter la parole de Dieu. Et voilà, et c'est pas forcément, et je vais pas forcément sur le sujet de l'évangélisation parce que c'est aussi un autre sujet, mais c'est déjà, est-ce que ce que je vis, est-ce que les pas que je fais, les décisions que je prends, elles sont conformes avec le plan de Dieu. Et si Jésus, il est mort à la croix pour nous, c'est pas pour qu'on ait le monde en héritage, et c'est pas notre modèle, mais c'est pour nous préparer pour une espérance future, pour le siècle à venir. Et le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment pas un lieu identitaire. Et ça veut pas dire qu'il faut rien faire dans le monde, hein. On peut sortir, on peut voir des gens, on peut faire du sport, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est simplement le seul regard de mes voisins, de mon entourage qui compte sur mes actes, ou celui de Dieu? C'est quoi celui qui compte le plus? Et voilà, je veux pas faire trop long, mais il y avait un autre point quand j'ai préparé cette étude qui m'a interpellée aussi, c'est qu'il y a le regard des gens qui peuvent être sur ce qu'on a dit, hein, sur notre physique, nos compétences, nos dons. Il y a le regard des gens sur les choix qu'on va pouvoir faire. Mais il y a aussi quelque chose, et parfois on y pense moins parce que c'est un peu plus sournois, mais c'est le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et pas tant sur notre regard physique, est-ce que je me trouve jolie ou pas, parce que c'est souvent influencé par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le regard des autres. Mais c'est aussi le regard qu'on peut s'accorder, et notamment parfois à l'égard de ce qu'on a pu faire, les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une amie et elle me parlait d'une situation de son passé qui l'a fait souffrir. Et voilà, une différence, un désaccord qu'elle a pu avoir dans une amitié passée qui a entraîné la fin de cette amitié. Et du coup, je lui dis « Mais t'en veux encore à l'autre personne et tout ?» Elle me dit « Non, je vais pardonner à l'autre personne, mais à moi, j'arrive pas à me pardonner. » Et c'est vrai que du coup, parfois, on souffre du regard des autres. Parfois, il y a des gens qui arrivent très bien à gérer ça, mais qui n'arrivent pas à gérer le propre regard, le jugement qu'on se porte sur notre vie, sur notre incapacité à nous pardonner. Et en fait, on est parfois enseigné, on est tout à fait capable de croire dans la miséricorde de Dieu pour les autres. Mais nous, en revanche, on va attarder nos pensées sur nos propres erreurs. On va porter un poids de culpabilité. On va être conscient de nos propres imperfections, de ce qu'on a peut-être raté, à tel point que du coup on va pas profiter de la grâce de Dieu pour nous, on va pas vivre dans la liberté que Dieu nous donne. Et en plus parfois on va confondre culpabilité et regret. Il y a certains de nos actes qui sont pas forcément mauvais. Peut-être que le résultat de nos choix est pas forcément celui qu'on aurait voulu, mais c'est pas forcément un péché déjà. Et parfois, eh bien oui, on va faire des erreurs, on va commettre des péchés, mais Dieu, il est capable de pardonner les autres, et ça, on le sait. Pourquoi il serait pas capable de nous pardonner nous-mêmes? Est-ce que mon regard, le regard que je porte sur mon propre péché, sur mes péchés passés, sur les erreurs que j'ai commises, il a plus d'importance que le regard de Dieu sur moi-même, sur les pardons? Est-ce que son pardon, dans ma situation, il a moins de valeur que le propre pardon que je peux m'accorder? Et nos erreurs, c'est pas notre identité. C'est pas nos actions qui définissent nos mauvaises, nos mauvaises actions, nos péchés, qui définissent ce qu'on est. On sait qu'il ne nous traite pas, en psaume 103, hein, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos iniquités. En fait, se punir soi-même en vivant dans la culpabilité, ça ne nous permettra jamais de nous sentir mieux et de nous sentir libres. Donc, pourquoi nous, on ne pourrait pas nous pardonner alors que Dieu nous a pardonné à lui-même? Et on le sait en plus, c'est Dieu seul qui juge. Si on se met à se juger soi-même, eh ben là, on va pas profiter non plus du pardon et de l'identité que Dieu nous a donnée. C'est pas à nous de décider si on est bon, si on est mauvais. C'est pas à nous de nous auto-punir. Bien sûr que c'est important d'être éveillé, d'avoir une conscience éveillée, de savoir identifier si on fait du bien ou du mal, si on a mal agi, et de demander pardon, de demander pardon aux personnes concernées s'il y a des personnes dans la situation. Mais on n'a pas à vivre sous un poids de culpabilité éternelle parce que ça, ça vient pas de Dieu. Jérémie 31, 34, Dieu nous dit: je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu, alors qu'il est omniscient, il oublie. Ça veut dire qu'il choisit. Il choisit de tourner la page. C'est lui qui fait ça pour nous, parce que c'est pas dans ça, c'est pas dans cette identité qu'il veut nous voir. Ouais, vraiment, je pense que si on peut s'encourager, c'est de se dire que voilà, on n'a pas le but de Dieu, c'est pas de nous culpabiliser, et ça le sera jamais. C'est le but du diable, c'est le but de Satan, on l'a vu tout à l'heure, de diffuser du doute un peu dans nos pensées, de chercher à nous donner une autre image de nous-mêmes. Alors ça peut être une image physique, hein, on l'a vu tout à l'heure, ou liée à des capacités. Mais ça peut être aussi cette image de la culpabilité, de tout ce qu'on a fait de mal. Mais lui, le Seigneur, il est là pour nous relever. Jean 3 nous dit, Jean 3, 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Et voilà, lorsque la honte et la culpabilité nous disent qu'on est indigne, Jésus, il est là pour nous tendre la main, pour qu'on puisse demeurer dans sa liberté et accepter pleinement sa grâce pour nous. On est capable d'y penser pour les autres, mais c'est valable pour nous aussi. Donc voilà, pour conclure, je voulais juste nous encourager à vivre sous le regard bienveillant de Dieu. Ouais, Jésus, il savait qui il était, et il n'y avait pas grand monde qui avait compris que c'était le Messie, que c'était le Fils de Dieu. Mais lui, il savait que son identité, elle était le fondement sur lequel l'Église est bâtie aujourd'hui. Et sans Jésus, sans Fils de Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de guérison. Mais ça, on l'a, on le sait. Et notre identité en lui, c'est le fondement de notre vie. Et vraiment, on a besoin de savoir qu'on est construit en lui pour vivre notre vie avec lui et en lui. Et c'est vrai qu'humainement, notre identité, ça va être notre état civil, notre métier, notre personnalité. C'est souvent le regard extérieur, les personnes de notre entourage. Mais c'est pas ce qu'on est réellement. Et parfois, en plus, on va même souffrir de paroles négatives ou humiliantes. Et c'est ces paroles qui vont nous conditionner. On devient ce que les autres disent de nous, ou ce qu'on va dire nous-mêmes de nous, hein, ce qu'on va penser de nous. On est diminué, on est incapable. Mais le regard de Dieu, il n'a rien à voir avec le regard des autres. Il nous a créés, il nous connaît parfaitement. Il a pour chacun, chacune de nous, un regard d'amour. Il a un regard avec son cœur, avec ses plans pour nous. Ouais, il veut nous donner un avenir, une espérance, on le sait, hein. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il a des projets pour chacun de nous. Et voilà, si on prend juste pour finir les deux exemples qu'on avait vus, hein, mais la femme samaritaine, elle avait donc une vie qu'on pouvait pointer du doigt, hein, pécheresse, celle qui a séduit les hommes, au point qu'elle est obligée de se cacher pour sortir dans la rue. Et en même temps, ben, elle comprend qu'elle est, qu'elle a une nouvelle identité quand elle rencontre Jésus. Et elle a plus honte, elle est transformée. D'ailleurs, elle évangélise à un tel point, mais voilà, en tout cas, elle sait que Dieu lui a donné une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et voilà, ne nous laissons pas enfermer dans ce que les autres peuvent dire ou penser de nous. Et dans l'histoire de Michal et de David, alors là, c'est plutôt David, lui, qui a bien compris les choses, parce que Michal, elle a mis en premier l'apparence et ce que les autres pouvaient penser, alors que David, lui, il a mis en premier la louange et sa joie pour Dieu. Et lui, il a vraiment été, au contraire, il considère que la personne de Dieu, c'est la première, et peu importe même ce qu'on va penser de lui. Au contraire, si l'exemple qu'il peut donner, c'est un Dieu, un roi qui adore, c'est ça qui lui plaît. Donc voilà, si on n'y arrive pas, on peut demander à Dieu de nous aider à nous voir comme ça, à nous voir selon son regard, et qui nous encourage. Et Philippiens 4:13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et en fait, quand on se laisse influencer par le regard des autres, c'est qu'on perd un peu notre confiance en Dieu. Mais quand on place vraiment notre confiance en Dieu, en ce qu'il a mis en nous, il va nous aider aussi pour nous laisser à pas être influencé par ce que les autres peuvent penser ou dire de nous. Et voilà, celui qui vit en nous est plus fort. Et on a juste aussi dans Daniel 10, verset 19. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Voilà, on peut vraiment s'appuyer sur ces promesses que Dieu peut nous fortifier dans cette identité. Mmh. Il peut nous affermir dans ce qu'on est. On peut être confiant en Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il est, ce qu'il fait en nous, et pour ce qu'on est vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, si ça peut nous encourager, on a un Dieu qui nous abandonne pas et qui va pouvoir nous fortifier dans cette identité qu'on a en lui. Mmh.